Voici la zone avec Pascal Grenon.
Alors, salut à toute la gang de la zone. Bienvenue dans notre émission qui s'appelle La Zone. On est le 10 juin 2020. Comme à l'habitude, je jase avec Mario Houdon. On va jaser de hockey, on va jaser un peu des Nordiques, je pense, mais on va surtout jaser d'un sujet qu'on n'a presque pas parlé dans les dernières années, un sujet d'intérêt, un sujet majeur, la saga des Coyotes. Salut Mario, comment ça va?
Ça va bien, Pascal. Ouais, on salue tout le monde de la zone. Je regardais puis j'ai dit à Pascal, c'est peut-être le temps qu'on se fasse un podcast avec tout ce qu'on peut lire un peu partout. Présentement, les séries de la Ligue nationale, ceux qui y croient, moi j'ai de la difficulté à y croire. Ouais, on entend parler des Coyotes de l'Arizona, encore une fois, ça semble se répéter de ce côté-là. Puis il y a aussi le bout du baseball majeur, on compare avec la NBA. Je pense qu'on a quelques sujets intéressants pour les amateurs.
Tout à fait. Particulièrement celui des... Mais c'est incroyable, je veux dire, à soir, on va parler des Coyotes. Ça fait combien d'années qu'on parle des Coyotes? Ça doit faire, sérieusement, Mario, 5, 6, 7 ans? Qu'on parle de ça, puis c'est toujours la même histoire qui se répète. C'est identique à chaque fois. Un nouveau propriétaire, un nouveau président, les histoires d'amphithéâtre. Puis, ils sont même pas gênés. Je veux dire, c'est toujours le même pattern qui se répète. Puis encore une fois, le nouveau président répète la même chose. On travaille très fort pour ramener les fans, puis on a des offres pour un nouvel amphithéâtre. C'est extraordinaire, ça va bien aller, on va réussir cette fois. Jusqu'à temps qu'il change de propriétaire ou jusqu'à temps qu'il change de président.
Écoute, je regardais ça, puis tu sais comment je regarde les statistiques, puis les profits, les pertes des équipes. Tu sais, je regarde depuis 2001, là, quand je regarde mon tableau, les Coyotes de l'Arizona ont perdu à peu près, selon Ford, 234 millions de dollars américains depuis 2001. Et depuis 2001, il y a à peu près 4 nouveaux propriétaires qui sont passés et à chaque fois, que ce soit le dernier qui est Meruelo ou que ce soit Barroway avant et les autres avant, on nous disait tous qu'on allait amener les fans, qu'on allait faire des profits avec cette équipe-là puis qu'on était commis à la population de l'Arizona puis qu'on pensait que ça allait fonctionner, qu'on allait réussir à avoir des amateurs qui allaient remplir l'aréna, ce qui est jamais arrivé. Le tout dernier, ben comme tu le mentionnais, Meruelo dit on est là, puis si c'était pas du COVID-19, on aurait peut-être un projet d'aréna pour les Coyotes plus près de Phoenix. Mais là, attention là. Et nos médias qui font la promotion de ça, il faut juste regarder que les Suns de Phoenix ont eu de la difficulté, ont eu de l'opposition à avoir un ajustement ou une rénovation de l'amphithéâtre où ils jouent. Puis on parle de la NBA, là, quelque chose de rentable dans le coin. Puis là, on s'imagine que tout à coup, en moins d'un an, parce que Meruelo est là depuis moins d'un an, il y a des propositions de nouvel amphithéâtre à 400, 500, 600 millions. Voyons, est-ce qu'on prend les gens pour des valises dans ce coin-là?
Ben, on dirait que oui, parce que, comme tu mentionnes, c'est comme si les médias posaient jamais les vraies questions ou si c'est comme si tout était toujours parfait. On dit qu'on a eu des offres extraordinaires pour des nouveaux amphithéâtres, puis ouais. Parfait, on rapporte la nouvelle, on pose pas de questions, malgré le fait que ça fait, comme je disais, près de 10 ans. Après 10 ans qu'on entend les mêmes histoires, c'est toujours des magouilles. Mais les médias, pour eux autres, là, c'est toujours des bonnes nouvelles, c'est extraordinaire. Les Coyotes vont bâtir un nouvel amphithéâtre, un nouveau propriétaire, avec les poches profondes. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de pertes, mais on dirait que c'est jamais assez. Moi, c'est ça qui m'écœure le plus dans ce dossier-là. Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle, on a écrit là-dessus, tout le monde connaît un peu la rengaine, mais que ce soit 235 millions, 500 millions, peu importe le montant, on dirait que c'est jamais assez pour Gary Bettman, c'est jamais assez pour la Ligue nationale, et il faut à tout prix garder les Coyotes en place malgré le fait que, clairement, ça fonctionne pas.
Ouais, mais les derniers propos qu'on a eus de monsieur Meruello, qui a payé cette équipe-là, faut le rappeler, 300 millions, le prix des dettes, alors qu'on est à nous crier par la tête qu'une nouvelle concession, ça vaut 650 millions US, tu sais, que ça peut pas se payer en bas de ça à cause de l'expansion. Tu vois, les folies qu'on va vous amener, tu sais, regardez, la voyez-vous, la poignée que j'ai dans le dos, là, ça a aucun bon sens. Et là, Meruello, en moins d'un an, là, on annonce que c'est une grande nouvelle. On a un président latino, une première dans la Ligue nationale. Mais l'annonce, ça serait pour une première fois depuis 2001, les Coyotes de l'Arizona font de l'argent. Ça serait une grosse nouvelle. Ça serait une première. C'est pas le fait qu'on nomme un président latino qui va faire que les Coyotes vont devenir rentables et qu'ils vont avoir un aréna. On veut pas des nouveaux stades en Arizona pour le baseball. On a de la difficulté à renflouer les Suns de Phoenix qui ont été une concession, puis de la NBA, on comprend qu'eux autres font de l'argent, puis juste de rénover l'aréna, ça a été des pourparlers, ça a été des citoyens qui se sont opposés à ça, puis là, on va construire un amphithéâtre pour le hockey qui attire pas. Il n'y a pas personne en Arizona qui est intéressé. Ben oui, il y a quelques fans, mais il faut arrêter de faire passer que les gens... Mais il faut arrêter que nos médias embarquent dans cette histoire-là.
Ben, c'est un peu ce que je te disais tantôt.
Il faut vérifier.
C'est exactement ça. C'est que les médias nous rapportent toujours la nouvelle de manière ultra positive. C'est comme si, exemple, François Gagnon, on le connaît, je vous ai tous les journalistes ou les experts de ce type-là, pour eux autres, c'est toujours des excellentes nouvelles. Puis c'est une très, très bonne chose pour la Ligue nationale. Alors que cette concession-là, c'est une vraie farce. C'est une vraie joke depuis le début. Là, comme tu dis, moi, je... Ça fait combien de temps que les Coyotes sont sans amphithéâtre? Parce que là, on le sait, ils jouent à Glendale, le contrat est renouvelé année après année, puis on est à la recherche d'une nouvelle bâtisse. Ça fait quoi déjà? 4 ans? 3 ans ou 4 ans? Ça passe vite en maudit.
Mais là, il faut voir le propos de Meruello, par exemple, Pascal. Meruello dit, écoute, Glendale, ils veulent nous garder. Oui, ils veulent vous garder. On comprend ça. Ils vous donnent, c'est un loyer minime. Je pense que c'est une affaire comme 150 000 pour rester à Glendale. Mais Gary Bettman, en 2017, il a dit, on restera pas à Glendale. On peut pas. C'est pas viable, Glendale. Mais là, on va écouter.
Ouais.
C'est sûr qu'il n'y a pas d'option de nouvel amphithéâtre en Arizona, là. Ils vont devoir rester à Glendale s'ils veulent rester à Glendale.
Est-ce que c'est pas une manière, Mario, de sauver la face un peu? Lentement, là, on introduit peut-être le possible de retour à Glendale, parce que justement Gary Bettman avait dit après l'échec du contrat, puis après avoir que le contrat ait été brisé par la ville de Glendale, nous on reste pas ici, on sac notre camp dans 2 ans. Ça fait 3-4 ans que ça niaise, et là Gary Bettman il veut pas perdre la face. Là, lentement, on est en train de réintroduire le concept de Glendale, ça pourrait peut-être intéressant parce que
non, mais pas lui.
Clairement,
pas lui.
Ils n'ont pas d'option. Ils nous font croire que oui, mais lentement, mais sûrement, on va dire, finalement, Glendale, c'est merveilleux. Quelle belle ville. Les fans sont extraordinaires, puis on pense qu'on est capable de réussir là, ici, à Glendale.
Ouais. Écoute, c'est le quatrième propriétaire qui se dit que lui, dans sa tête, c'est Glendale, pas Glendale, mais l'Arizona, c'est un bon marché. Les trois autres ont fait faillite avant.
T'es mauvaise foi, Mario. Non, arrête, là. Il va réussir, celui-là.
Ben oui, c'est ça. Mais il va réussir en espagnol. Je veux pas partir un débat sur la nationalité, mais on le fait par nos médias, alors qu'on dit, c'est toute une nouvelle. Il y a un président latino avec les Coyotes de l'Arizona. Mais il y a combien de partisans latinos qui vont voir les Coyotes? On le sait très bien qu'il y en a à peu près pas.
Mais on joue beaucoup cette carte-là depuis quelque temps, là, la carte de l'appartenance puis de l'identité chez les Coyotes, parce qu'ils sont pas capables d'attirer personne. Mais ça fonctionne pas parce que c'est pas nouveau, là. L'année passée, on nous jouait un peu cette chanson-là. Il y a 2 ans aussi. Il y a pas plus de monde dans l'amphithéâtre. Puis c'est pas plus rentable. Puis moi, quand j'entends que les Coyotes vont être rentables pour la première fois, je trouve ça absolument risible, ridicule et complètement pathétique parce qu'on sait que c'est une équipe qui a jamais fait de profit.
Ben, ils seront pas. C'est sûr qu'ils seront pas rentables pour l'instant. Ils l'ont jamais été. Depuis 2001, je le répète. 234 millions de pertes selon Forbes. Et ça, c'est en incluant tout ce que le partage des revenus leur a donné pour leur éviter des pertes. Monsieur Meruello, je rappelle, a payé 300 millions le prix des dettes. juste les dettes accumulées de cette équipe-là. Barroway, qui avait mis tout son avoir dans cette équipe-là, se retrouve avec une petite portion des parts de cette équipe-là après avoir perdu des millions. Et là, il n'y a plus le choix. Là. Lui, rappelle-toi son discours. C'était qu'on allait, les Coyotes, c'était pour rester en Arizona, qu'il voulait, c'était un legs pour sa famille, pour ses enfants, tout ça.
Mais oui.
Puis ici, c'est casser les dents sur cette formation-là, et ça sera ça pour l'avenir.
C'est ça que je te disais, Mario, tantôt, c'est le discours de tous les nouveaux propriétaires, c'est un copier-coller, et on ne gêne même pas, c'est la même chose, c'est carrément le même discours, on répète la même chose année après année, propriétaire après propriétaire. Ça va pas changer du jour au lendemain, que ce soit un latino, que ce soit un propriétaire blanc, que ce soit un propriétaire très riche.
J'ai rien que ce soit.
Ça n'amènera pas plus de gens dans l'amphithéâtre. Les gens là-bas, ça les intéresse pas, le hockey. C'est pas un sport qui les intéresse. Là, si ça faisait 10 ans que la concession existait, OK, on peut donner une chance. Mais là, on parle de. Ça fait plus de 20 ans qu'on sait que ça fonctionne pas. Et je vois pas pourquoi, dans les 5 prochaines années, ça fonctionnerait. Puis moi, c'est ça qui m'écœure le plus. C'est que malgré tout ça, et puis on le sait, on en parle toujours, on n'arrête pas de parler d'évidence à ce propos-là, mais non, Gary Bettman, il change pas d'idée, les propriétaires back ça, ils trouvent ça extraordinaire d'avoir un marché comme ça. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est parce qu'il fait beau, il y a des plages, fait chaud, puis les joueurs qui sont, selon moi, la partie du problème, 50% du problème, sont contents d'aller jouer là. Ça fait des belles petites vacances.
Arrête là. Il n'y a pas de plage en Arizona, puis c'est pas les joueurs qui décident ça. Les joueurs vont, ils sont payés, ils s'en vont jouer là. Il n'y a pas de problème. Ils leur diraient qu'ils s'en vont jouer à Québec, ils iraient jouer à Québec, ils vont pour l'argent. Là, il faut à un moment donné arrêter là, de croire ce discours-là. Et Gary Bettman est là, et c'est pas pour la télé, c'est pas pour rien. Il n'y a pas le choix. Il doit avoir une équipe. À un moment donné, il ne peut pas fermer la formation.
Ouais, mais je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus parce que des fois, on a des petits débats là-dessus dans la zone, sur zone nordique. Mais pour moi, les joueurs font partie du problème. Puis moi, je reste assez convaincu, malgré le fait qu'ils ne soient pas très d'accord avec ça, que les joueurs sont contents d'avoir quelques marchés destination soleil, je vais dire.
Il
n'y a pas toujours des plages, mais maudit qu'il fait beau là-bas. Eux autres sont bien contents, ça fait des petites vacances, puis ils sont prêts à endurer des pertes, des marchés un petit peu plus difficiles au niveau hockey, parce que c'est une destination, disons, assez agréable, comparativement à Winnipeg, Québec, où ce qui fait peut faire moins 50 pendant 6 mois.
Ça n'a aucun rapport, puis c'est pas vrai. Ils vont aller où ce que le salaire est, puis où ce que la paye va être, peu importe où ce que c'est, parce que de toute façon, en dehors de la saison, ils vont aller ailleurs. Ils sont jamais là en Arizona, ou à peu près. Ils sont pratiquement jamais sur place. Ils sont toujours sur la route. Il faut arrêter de penser que les joueurs, ils vont en Arizona parce pour la température, c'est pas ça. Ils vont en Arizona parce que le salaire est là, parce qu'ils sont payés. Sans ça, ils gagneraient rien. Les joueurs vont aller où c'est payant. Puis lorsqu'on voit la situation actuelle, ils voient bien que les équipes qui perdent de l'argent, ils viennent chercher cet argent-là dans leur poche. Et ça, moi, jamais j'accepterai de penser que les joueurs vont décider de jouer en Arizona ou en Floride de perdre de l'argent. Parce qu'il fait beau. Ça se peut pas, ça. C'est impossible présentement.
Qu'il fasse beau. Mario, je comprends, mais pourquoi il n'y a jamais eu assez de pression de l'association des joueurs pour exiger que des marchés complètement pourris dégagent de la place? Pourtant, ça n'arrive jamais. Les joueurs ont 50% de la business.
Non, attends
pas. Ça a l'air de faire leur affaire.
Non, écoute, si toi, tu travailles dans un restaurant, qui te paye, même s'il n'y a pas de monde. Tu vas aller dans ce restaurant-là, s'il n'y a pas de monde, mais ils me payent. Eux autres font la même chose. Demain matin, ils prennent l'Arizona puis ils l'envoient à Houston. Ils vont aller jouer à Houston. Ils prennent cette équipe-là, ils l'envoient à Québec. Ils vont aller jouer à Québec. Eux autres, ce qui les intéresse, c'est le salaire. Mais ils n'ont pas de décision là-dessus de dire on joue où ou on pas. Non, s'il me paye 8 millions pour jouer en Arizona, je vais aller jouer en Arizona. Puis s'il me paye 8 millions pour jouer à Québec, je vais aller jouer à Québec. Ça n'a pas aucun rapport à la la température ou la météo. C'est eux autres, ils vont où est-ce que le salaire est. Aujourd'hui, il n'y a plus d'appartenance dans ce cas-là. Il faut juste comprendre que si la journée où on va déménager les Coyotes de l'Arizona, les joueurs vont suivre. Ils n'ont rien à dire là-dedans. La seule chose où ils peuvent dire maintenant, c'est dire, écoute, on paye 50%, oui, de notre salaire vient des revenus. Eux autres n'ont pas assez de revenus. À chaque année, ils viennent en chercher dans nos poches. Et là, ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, il faut que ça arrête.
Mais c'est ça, exactement mon point. Donc, je dis que les joueurs n'ont jamais imposé ça parce qu'ils ont le pouvoir de le faire.
Non, ils n'ont pas le pouvoir de le faire. Ben, ils peuvent mettre un peu de pression sur la Ligue, mais ils ne le feront pas. Ce n'est pas eux autres qui prennent la décision. Si la Ligue décide de les payer pour aller jouer là-bas, ils vont le faire. Le pauvre gars de quatrième trio qui devrait gagner 500 000 par année maximum.
Il gagne 7 millions.
Non, il gagne 1 million et demi parce que justement, il y a un plancher salarial puis il s'en va jouer. En plus, on se cachera pas que les Coyotes de l'Arizona essaient de ne pas y passer toujours cette option-là en engageant des gars qui ne jouent pas.
Oh, c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi, je suis d'accord avec toi.
Mais si les joueurs n'étaient pas d'accord avec ça, pourquoi ils ont accepté de prolonger la convention?
Ça, c'est parce qu'on leur a fait des promesses. C'est clair. Mais là, aujourd'hui, quand ils vont devoir rembourser 600 millions à cause du COVID-19, je peux dire qu'ils commencent à être moins intéressés. Et là, on va voir la vraie réalité avec ceux qui pensent qu'on va avoir des séries éliminatoires. Ceux qui pensent que ça va jouer. Puis ceux qui pensent que demain matin, la Ligue nationale va se mettre à jouer de janvier au mois de septembre pour jouer l'été. Là. Et il faut à un moment donné arrêter, prenez vos médicaments, là, ceux qui pensent ça. Là. Ouais, ça n'a aucun bon sens. Là.
Parce qu'on sort de jaser une couple de fois. Puis moi, on voit un peu sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook, des gens qui sont absolument heureux de la situation, qui espèrent vraiment avoir du hockey coûte que coûte, n'importe quand. Mais moi, je ne suis pas capable de comprendre. Puis je commence à croire de plus en plus que ça n'arrivera pas. Parce que si on suit un peu l'évolution du COVID aux États-Unis, c'est en train d'un peu de grimper ça grimpe dans plusieurs États. Donc, la situation peut devenir de plus en plus problématique, en tout cas au niveau des États-Unis.
Ça peut causer
des problèmes.
Ça aussi, on s'entend pas sur le COVID, là, parce que moi, tu sais, il y a des choses. Sauf que demain matin, je lisais encore aujourd'hui, on parle d'attendre avant de rouvrir les frontières. Après le 21 juin et peut-être plus tard encore. Mais là, les gens qui pensent que les joueurs d'hockey vont pouvoir traverser, le problème, c'est que les sportifs, ils veulent leur famille. C'est pas juste les joueurs qui vont pouvoir traverser. Là, il faut permettre à toutes les familles de traverser. Il y a des contraintes. Là.
Je suis d'accord, Mario, mais ce que je veux dire, c'est que si la situation du COVID s'améliore pas aux États-Unis, elle s'empire. Justement, ce que tu es en train de parler, les frontières, toutes ces problématiques-là, ça va être pire encore et encore plus compliqué de passer à travers ça. Donc, la Ligue, les délais risquent d'être repoussés et repoussés encore. Ce qui veut dire que les camps d'entraînement, les fameuses séries bidons à 24 équipes, ben ça va avoir lieu en novembre. Après ça, tu commences la prochaine saison quand? Puis après ça, l'autre saison d'après, tu le repousses aussi. Quand tu rattrapes le temps?
T'as parfaitement raison. Là, si on avait pu débuter les séries là, maintenant, les supposées séries à 24 équipes, si on avait commencé là, qu'on avait terminé en septembre, tu te dis, bon, deux mois d'arrêt pour une année, on va commencer en décembre, l'année prochaine, on va condenser le calendrier, on va arriver l'année prochaine avec un début de saison qui devrait être à peu près, mais là, c'est pas ça. Il y a des gens qui pensent, qui parlent de dire que la Ligue nationale aimerait mieux jouer l'été. Même j'ai lu Yvon Pedneau qui mentionnait qu'il y a certains propriétaires américains qui aimeraient mieux jouer l'été. Prenez vos médicaments, là, c'est pas deux pilules. Prenez pas deux pilules à l'heure, c'est une pilule aux deux heures que vous devez prendre. Là. Faut faire attention à sa posologie. Là,
parce que même pour les endroits où le hockey c'est super populaire, on va dire ici ou.
C'est la mort.
New York, je veux dire, même l'été. Moi, personnellement, écouter du hockey l'été, ça m'intéresse pas. Je pense qu'on est plusieurs là-dedans. C'est pas un sport d'été. Moi, les séries, ça m'intéresse zéro. Cette espèce de solution bidon-là, je trouve que c'est du n'importe quoi. Mais comme tu dis, si ça avait démarré quelque part, juillet, septembre, août, là, ça donne, tu te dis, bon, la prochaine saison, on va la raccourcir un peu pour rattraper un peu le délai qu'on a perdu.
Comme quand
et Gary Bettman, il va vouloir jouer encore 82 matchs l'année prochaine parce que c'est toujours une question de revenus puis de gens dans l'amphithéâtre. Ben, la problématique, elle va se prolonger comme à temps.
Là, tu pars pour 10 ans. Les gens qui pensent que la Ligue nationale peut survivre en juin, l'été, juillet, août, il faut faire attention. Les clubs payants sont au nord. Tu peux pas avoir une saison de la Ligue nationale qui débute en janvier quand le hockey junior puis toutes les autres équipes, toutes les autres ligues ont commencé en septembre ou en octobre. Voyons, ça fait aucun sens. Et ceux qui sont là, qui sont dit, ah ben moi je vais le regarder en juillet. Dites-vous, vous êtes une minorité. Vous êtes un sur 100 à penser ça, puis vous êtes Québécois. Et qui va regarder en plein mois de juillet un match Floride-Caroline? Si les Québécois sont pas en Floride, il y a personne dans l'aréna. Parce que c'est les Québécois qui vont en Floride. Il faut juste être réaliste lorsqu'on regarde ça. Il faut arrêter de penser juste comment nous on voit ça. Nous, on est des maniaques. On est des fous de hockey. Mais le gars en Arizona, le gars en Floride, lui, c'est le baseball. Le pire de tout ça, c'est quand on va nous dire on voudrait éviter la concurrence avec la NFL. C'est tellement de la bullshit parce que la NFL joue le dimanche. 90% de ses matchs sont le dimanche. Si tu veux éviter la concurrence de la NFL, joue pas le dimanche. C'est juste ça que tu as à faire. Il y a pas le mardi, mets tes matchs le mardi, le mercredi, le vendredi, le samedi. T'as pas de concurrence de la NFL. C'est de la bullshit lorsqu'on qu'on veut éviter la concurrence de la NHL, de la NFL, ça n'a aucun bon sens. La Ligue nationale.
De toute façon, comme on avait parlé un peu, on sait que Gary Bettman, ce qu'il veut, c'est pas nuire au contrat avec les télédiffuseurs. C'est la seule raison, parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de gens dans l'amphithéâtre, donc il n'y aura pas de revenus à ce niveau-là, mais il ne veut pas briser le contrat. Donc, n'importe quelle solution va être supposément la bonne. Mais tu le disais, puis c'est ce que je mentionnais juste avant. Nous, on est des maniaques de hockey, mais on est des maniaques de hockey l'hiver.
Ben oui.
Je suis pas certain. En fait, je me demande c'est quoi le pourcentage des maniaques qui vont vraiment regarder le hockey cet été. On le sait, je l'ai dit. L'été, ça dure quoi? 2 mois? S'il fait beau, on est chanceux. Donc, on va dire 2 mois d'été. Est-ce que tu as vraiment le goût de taper des séries à tous les jours? Rester en dedans, pas profiter de l'été? Je suis pas mal sûr que non. Ben, comme tu dis, il y a une poignée de gens qui vont le faire, mais ça va être tellement peu.
Ben oui, mais en plus de ça, c'est que nous autres, on va le faire. Mais pour les vrais maniaques, il y a quelques-uns qui vont le faire. Mais il faut prendre le côté, qu'est-ce qui est payant, puis qu'est-ce qu'on nous parle depuis le début, c'est le côté américain. Les États-Unis d'Amérique, c'est eux autres qui vont gérer ça. On voyait, j'ai partagé dernièrement, on semble prévoir que le nouveau contrat d'NBC va être à 375 millions. Ouais. Donc, passer de 188 millions, on nous a déjà parlé de 200 millions, mais là, on est à 188 millions, pour amener à 375 millions. Donc, c'est pas le double du contrat qui va être renouvelé. À 375 millions, Bettman vient de manger une claque dans la margoulette, là. Parce qu'on
parle, Gary Bettman parlait d'un milliard et plus.
Bon. Et donc, on arrive à peu près à un contrat qui est équivalent à celui canadien. Mais on comprend que les cotes d'écoute sont au nord. C'est pas en bas. C'est pas en Floride. C'est pas en Arizona. En bas de la Mason-Dixon Line, selon ce que disait M. Fertitta à Houston, ben, c'est pas là que sont les cotes d'écoute. Donc, les Américains, ils seront pas intéressés. Il y en a beaucoup qui sont offusqués des propos de Max Kellerman, qui a mentionné que le hockey est pas le quatrième sport majeur.
Ouais.
Il y a personne qui est intéressé au hockey. Même Chantal Maccabée, est montée sur ses grands chevaux en répondant en français, en lui disant qu'il était dans l'erreur. Mais il est pas dans l'erreur. Il est right on the target, M. Kellerman.
Je suis d'accord. Écoute, mais il y a 20 000 fans dans chaque ville.
Ben, mais ça, il s'est trompé parce qu'il y a bien des équipes en Floride.
C'est moins ça.
C'est, les arénas sont pas pleines. Mais que lorsqu'il dit que les cotes d'écoute sont minables, les cotes d'écoute, elles sont minables. On les a, les chiffres, on peut les voir. Et même dans les derniers chiffres avant la fin de la saison écourtée à cause du COVID-19, les cotes d'écoute étaient minables en bas de l'année précédente.
Mais tu vois ça, Mario, je sais que tu en parles souvent de ça, puis tu publies des rapports, des tableaux, puis des... Mais ça, c'est une autre affaire qui m'écœure. On voit les statistiques, on voit des chiffres, mais malgré ça, les médias rapportent toujours que tout va bien, Puis les gens y croient. Les gens disent que ça va bien. Donc, la Ligue nationale, c'est très extraordinaire. Des grands marchés comme l'Arizona, la Floride, c'est parce que ça, c'est tellement payant, la TV, que ça fonctionne. Mais ouais, on sait, mais il y a 2-3 000 personnes qui l'écoutent, mais les gens sont convaincus que ça marche, puis qu'il y a plein de gens qui écoutent ça. Puis, en contrepartie, ils disent qu'à Québec, ça ne marcherait pas. Ça me fait capoter, j'ai jamais compris. C'est un discours qui perdure dans le temps.
Ben, on nous parle de billets de 200 à 300 $ ici à Québec, on peut pas se payer ça. Mais c'est de la bullshit, ça, avec, parce qu'il n'y a pas de ville qui garde 200 à 300 000 $ 200 à 300 $ du billet pour un match de hockey. C'est pas vrai, la moyenne n'est pas ça du tout. Et il faut que se comparer avec Ottawa. Si vous comparez à Montréal, et Montréal, maintenant, Jeff Molson dit qu'il est en train de perdre de l'argent puis qu'il perd avec son équipe alors que c'est une équipe extrêmement profitable. Il faut arrêter. Les contrats de télé à Québec seront équivalents à ceux d'Ottawa. Encore les gens qui parlent d'Ottawa, mon Dieu, Ottawa, c'est donc bien épouvantable parce que M. Melnyk est pas un bon propriétaire. Sauf que les sénateurs d'Ottawa font de l'argent. Alors que vous pensez qu'ils vont déménager une équipe payante et vont garder des équipes comme la Floride et l'Arizona. Et imaginez-vous, si en Floride, dans une pleine saison de hockey, alors que les Québécois sont en Floride, on a 12 000 personnes qui regardent un match de hockey à la télé. Imaginez-vous au mois de juillet, alors que les Québécois sont au Québec, combien de gens vont regarder le hockey en Floride?
Non, je sais, Mario, mais tu parles d'Ottawa, puis je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, puis j'ai le goût de m'ostiner un peu avec toi, mais
Ottawa bouge
moi, je
serais
si étonné de voir la Ligue nationale prendre une décision complètement ridicule, même si on sait que ça fait aucun sens, et décider que Ottawa, ça fait pas, que la situation est infernale, c'est pas vivable, puis qu'on doit déneiger l'équipe. L'arrogance de Gary Bettman a aucune limite.
Non,
donc, moi, personnellement, moi, je serais vraiment pas surpris de voir la Ligue nationale dire que, de toute façon, Melnyk, là, c'est un tout croche. On voit que ça fonctionne pas, là. Et on dit que c'est terminé. L'équipe doit déménager, même si ça fait pas de sens quand on regarde les autres marchés.
T'es complètement dans l'erreur de penser que la Ligue nationale va bouger une équipe payante alors qu'on garde des équipes qui ne le sont pas. Il faut arrêter de penser que parce que Melnyk, puis arrêter d'écouter. Là, vous prenez les propos de nos experts québécois francophones qui nous parlent d'Ottawa, alors qu'ils nous disent qu'en Floride puis en Arizona, c'est le trafic qui est le problème. Là. Il faut doser nos évaluations. Melnyk est peut-être tout croche, mais il va toujours avoir un propriétaire pour une ville qui est payante.
Est-ce que tu penses que Québec serait plus payant pour la Ligue nationale qu'Ottawa?
Ça serait l'équivalent. Le problème, c'est que si tu prends Ottawa, puis tu le compares à Arizona et Floride, c'est sûr qu'Ottawa est beaucoup plus payant. Ottawa, ça a fait des profits depuis le tout début, depuis 2001. C'est 90 millions de profits, alors que l'autre, c'est 235 millions de pertes. Il faut arrêter. Je comprends.
Mais Mario, je suis vraiment d'accord avec toi. Là. Ça fait pas de sens. Je comprends. Mais moi, ce que je dis, c'est que considérant ça, la Ligue nationale garde des marchés depuis, on sait, là, le temps depuis. Ça fait combien de temps que Gary Bettman défend son chouchou, les Coyotes de l'Arizona?
Moi,
quand je vois ça, là, je me dis que la logique n'est pas toujours là. Puis mon point, c'est que je ne serais vraiment pas surpris si la Ligue nationale disait on veut tirer la plug à Ottawa.
Mais non, on tirait la plug en Arizona et en Floride avant Ottawa.
Je comprends, Mario, c'est pas ça le point. C'est que la Ligue nationale, elle agit étrangement. C'est pas toujours très, très logique.
Pascal, elle agit pas étrangement. Elle veut avoir Vegas, elle veut avoir Seattle. Tu peux pas bouger des marchés quand tu veux avoir ces équipes-là. Ça, c'est réglé. Là, après ça, on verra. Là, il y en a plus de marchés disponibles intéressés à avoir une équipe. Il faut juste prendre le contexte. Là, quand tu vas avoir à décider quelle équipe tu déménages, ça va être celle que tu perds le plus d'argent avec. Présentement, tu pouvais pas bouger parce que tu veux Vegas et que tu veux Seattle. C'est ça la réalité
Je veux dire, Gary Bettman, clairement, et la Ligue nationale, les propriétaires, malgré qu'il y ait des marchés, ceux qu'on connaît, là, qui perdent de l'argent année après année, on s'entête, on les garde là. Donc, c'est pas le point majeur pour eux autres, c'est pas le point principal pour dire on va déménager l'équipe. ils perdent de l'argent depuis toujours. Puis non,
ça plus bouge payant pas. D'attendre. C'était plus payant d'attendre. 500 millions à Vegas, 650 millions à Seattle, c'était plus payant perdre 20 millions.
Ouais, mais Mario, on aurait pu déménager les Coyotes à Québec, là, v'là. Ben là, 6 ans, puis on aurait quand même pu amener Vegas puis Seattle à 500 puis 650 millions.
Non, j'aurais pas pu parce que les Vegas puis Seattle auraient dit OK, parfait, où tu envoies l'équipe si t'as pas Québec? C'est ça le problème. Ouais. Si tu prends Arizona puis tes transferts à Québec pour 300 millions, pour comment Vegas fait pour dire ben, OK, je vais payer 500 millions pour une équipe? Non, c'est complètement illogique. C'est la même chose.
Écoute, comment justifier le 150 millions de plus entre Vegas et Seattle? Je veux dire, la Ligue nationale est assez arrogante pour le faire.
Je l'explique dans deux secondes pourquoi.
Vas-y.
Quand que Seattle, ça soit après l'expansion de Vegas à 500 millions, quand Seattle arrive et cogne à la porte, il dit, nous autres, on veut une concession. Il dit, parfait. Tu veux une concession, c'est 650 millions. Il dit, ben non, Vegas vient de payer 500. Ouais, mais si tu veux une équipe, à 500 millions, je suis obligé d'embarquer Québec dans le Derby parce que Québec était là avec Vegas. Fait que si tu veux pas que j'inclue Québec, il faut que tu payes 650 millions. Eux autres, ils veulent l'aréna pour avoir la NBA. Donc, ils acceptent de payer 650 millions. Dans ce dossier-là, Québec a servi dans les deux dossiers. Si Québec a une équipe, comment tu fais pour réclamer à Vegas, qui est le seul à déposer sa candidature pour un club d'expansion, comment tu fais pour réclamer 500 millions? Puis après, comment tu fais pour réclamer 650 millions à Seattle quand ils sont tout seuls dans la course et qu'ils n'ont aucun concurrent? Si moi, je veux te vendre une voiture, 500 000 $ puis que tu es le seul acheteur, tu vas dire, ben moi, je vais te donner 300 000 pour cette voiture-là. Mais non, mais si vous êtes deux, ça va aller à la surenchère. Donc, la Ligue nationale avait besoin de Québec dans ce dossier-là. Et c'est pour ça que moi, je pense que Québec, la Ligue nationale leur doit quelque chose, comme il devait à Winnipeg en 2011, et qu'à un moment donné, ça va être payant pour la ville de Québec. Et là, arrêtez.
Mais, écoute, Mario, ça fait du sens. Je comprends le point de vue. Mais c'est qu'à un certain moment donné, ça délimite l'attente. Puis on a fait le travail, on a vous rendu service. Tu sais, à un moment donné, après 3-4 ans, là quand t'es rendu à 5, 6, 7, 8, là,
c'est pas vrai. Parce que Seattle n'est pas encore rentré. Tu peux pas déménager une équipe puis dire à Seattle, ben, vous avez payé 650 millions, mais Arizona, on va les envoyer à Houston pour 300 millions. Tu sais, tu peux pas, pour l'instant, tu peux pas faire ça. Le COVID-19 vient changer bien des choses, cependant, où à ce moment-là, à un moment donné, il y a des équipes qui vont dire, là, assez, c'est assez. Déjà, le Canadien demande de l'aide au gouvernement parce que ça les intéresse pas de payer encore une fois pour les équipes.
Non, je comprends. Clairement, Mario, puis on... C'est, je pense que c'est dans le premier podcast qu'on a fait. Moi, j'y croyais plus vraiment. Là, je veux dire, j'avais pas mal abandonné le dossier. Puis la situation du COVID, c'est clairement ça qui fait changer la donne. Puis on le voit dans Zone, il y a beaucoup plus de gens qu'avant parce qu'on n'était à peu près plus personne. Là, la situation fait que ça redevient possible. Mais moi, j'avais abandonné. Puis toutes ces histoires-là de levier Québec qui a servi pour aider la Ligue, c'est pour ça que je dis, à un moment donné, il faut que ça paye. Tu peux pas attendre 10 ans. Et là, la situation vient de changer à cause de la pandémie.
Non, tu peux pas dire ça quand tu es l'administrateur de la zone nordique ou tu crois au retour des Nordiques. Tu peux pas dire que tu avais abandonné, Pascal.
C'est presque ce que j'ai dit.
Ça n'a aucun bon sens. Parce que de toute façon, quand tu regardes ça, il faut voir le plan de la Ligue nationale. On voulait Vegas, on voulait être les premiers à Vegas, c'est réglé. On voulait Seattle, eux autres voulaient une aréna pour avoir la NBA, puis leur façon d'avoir, c'était d'avoir une concession de la Ligue nationale, puis la Ligue nationale voulait Seattle. Ça, c'est fait. Et là, présentement, après ça, on voulait régler le contrat de télé. Il y en a qui parlaient d'un milliard. Rappelle-toi, là, les Renault Lavoie de ce monde parlaient de la Ligue nationale veut un milliard. Là, les dernières nouvelles, c'est 350 millions, 375 millions. On est loin du milliard là, pour ça. Mais c'est pas si NBC paye 375 millions pour la télé, c'est certainement pas parce qu'ils ont Floride puis Arizona dans la Ligue nationale, ils présentent pas de match de ces équipes-là, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est Chicago. Ce qu'ils veulent, c'est New York. Ce qu'ils veulent, c'est le Canadien qui affronte les Bruins de Boston. Ce qu'ils aimeraient probablement plus que la Floride contre le Canadien, c'est un match Québec contre le Canadien, où là, les codes d'écoute seraient exponentiels comparativement à ce qu'on a. Au Québec, c'est la même chose. Au Canada, c'est la même chose. Puis le cadeau pour Rogers, c'est de dire, vous avez mangé vos bas pendant plusieurs années, on va vous donner quelques rivalités plus régionales. L'arrivée de Seattle avec Vancouver, c'est juste bon pour les codes d'écoute. Et le retour de Québec face à Montréal, ça va être extraordinaire. 100 000 personnes.
Ça va être extraordinaire. Mais c'est un peu mon point. C'est pour ça que je dis que Mario, j'avais abandonné, presque abandonné, c'est que ça faisait tellement longtemps puis qu'on voyait pas, on dirait que la Ligue nationale était satisfaite de la situation, puis je pense qu'elle l'était, et que ça aurait continué encore des années. Puis de dire que j'avais abandonné, c'est à un moment donné, ça doit faire 8 ans que je roule sur Zone Nordique, puis que je pousse le dossier à fond. J'ai toujours cru, j'ai toujours vraiment même été parfois trop positif. J'ai écrit des textes. J'ai dû avoir écrit 500 textes, puis j'ai jamais vraiment changé d'idée. Malheureusement, je suis pas un expert, mais les experts, eux autres, là, ils changent d'idée comme ils changent de short. On le sait, les animateurs de radio, ils croient pendant un an, l'année d'après, on y croit plus, on change d'idée tout le temps, puis c'est toujours correct.
Mais Pascal, moi, très
récemment,
bien.
C'est vrai, j'y croyais moins, en tout cas, j'y croyais plus, puis j'avais un peu abdiqué. Comme je dis, c'est vrai.
Tu comprends
c'est
que
la situation a ramené les gens à y croire.
Tu comprends que j'ai perdu ma job à la radio parce que je croyais au retour des Nordiques et qu'il y a des gens qui aimaient mieux aller du côté de Montréal pour diffuser le match du Canadien. Puis bon, les Nordiques ne reviennent pas, donc tu n'as plus d'intérêt, tu n'es plus intéressant. J'ai continué à penser que les Nordiques allaient revenir, puis je continue à le faire. J'ai été moi aussi très... très high dans ce dossier-là, comme plusieurs animateurs. Mais là, présentement, ils ont peur. Les animateurs ont peur de se faire reprocher d'être trop positifs. Fait qu'ils vont du côté inverse. Tu sais, le gars qui coach son enfant au hockey, il est soit trop permissif ou soit qu'il est trop sévère. Ouais. Mais là, présentement, on écoute les animateurs radio, ils sont extrêmement sévères sur le retour des Nordiques parce qu'ils ont tellement peur de se faire critiquer, de se faire reprocher d'y croire. Puis au contraire, s'ils veulent que le centre Vidéotron soit payant, s'ils veulent que ça fonctionne, ils devraient rêver au retour des Nordiques. On l'a vu encore une fois, en période de pandémie où il n'y a pas de hockey, c'est 100 000 de codes d'écoute pour un vieux match de 1982 entre les Nordiques et le Canadien. On peut s'entendre que diffuser demain soir un match Floride-Canadien, vous allez avoir 22 personnes qui vont regarder le match. Là. Donc, on est dans un autre monde. Mais je le répète, perdre 20 millions par année en Floride pour aller ramasser 650 millions à Seattle, ça vaut la peine. Parce que pour l'instant, ça va finir par être payant pour eux. Donc, pour le plan de Gary avant le COVID-19, c'est de dire, on va assumer les pertes, mais demain matin, ça va être extrêmement rentable pour toutes les équipes, même pour ceux qui ont des problèmes présentement. Il faut arrêter de penser que le plan de Gary a toujours été cela avec les propriétaires, c'est qu'il a vendu ce plan-là, de se dire, écoute, ça va être payant à un moment donné. Moi, je suis encore une fois convaincu que le plan est que les Nordiques vont venir lorsqu'on va avoir réglé certains à côté. Le COVID-19 vient changer certaines affaires. Là, il faut arrêter de penser qu'on va nous faire des séries qui n'ont pas d'allure, qui n'ont pas de bon sens, puis qu'ils pensent qu'on va avoir des codes d'écoute intéressantes, alors que ça va être minable.
Ouais,
et
ouais.
Faut écouter nos experts.
Justement, à parler de ça, écoute, on va faire ça en une minute. Est-ce que tu penses, Mario, qu'il va en avoir des séries cet été?
Moi, je crois pas.
Donc, moi, pas en tout, ça n'aura pas lieu. On va décider de tirer à plug, puis on va repartir la saison l'année prochaine. Prochaine saison.
La logique, c'est si tu commences en septembre, pourquoi tu commences pas une nouvelle saison en septembre avec des partisans dans les gradins plutôt que de jouer un simulacre de série pour venir gâcher les 4-5 prochaines saisons à venir de la Ligue nationale avec des matchs
d'accord.
Avec des matchs en été où ce que tu vas avoir zéro. Il faut arrêter de penser que, comme il disait Yvon Pedneau, qu'il y a des propriétaires américains qui sont intéressés à jouer l'été. C'est juste, écoutez, prenez vos médicaments, ça n'a aucun bon sens. Et parce que nous autres, au Nord, les gens n'auront pas d'intérêt à regarder du hockey en juillet et en août. Et il faut. Puis la vache à lait de la Ligue nationale est au Nord. Elle est certainement pas au Sud. Donc, les propriétaires du Sud, shut up, formez-vous, puis subitez, écoutez bien, vous attirez aucun profit à cette ligue-là, vous attirez aucun intérêt chez les partisans, ça augmente pas, arrêtez, là, je comprends, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont latinos, noirs, tout ça, il y a aucun moment de racisme là-dedans, mais ils aiment pas ça, le hockey. C'est juste ça, la réalité. Là. Le baseball vit une autre réalité, eux autres, où il n'y a pas de plafond salarial. Les joueurs veulent avoir plein salaire. Le baseball, le hockey ne dépassera pas le baseball en juillet et en août. Dépassera pas la NFL, dépassera pas la NBA. Si la NBA décide de jouer en n'importe quel moment de l'année, ils vont avoir de meilleurs codes d'écoute que le hockey. Le hockey, Max Kellerman l'a dit, écoutez bien, c'est pas un sport majeur aux États-Unis, puis les codes d'écoute, c'est zéro. Nada, il n'y a rien à voir avec le hockey du côté du sud des États-Unis. Donc, bon, montez au nord, s'il vous plaît, redonnez à ces gens-là leur sport national, l'intérêt, Buffalo, Pittsburgh. C'est quand j'entends les gens parler, et c'est sûr qu'à Pittsburgh, les codes d'écoute sont bien plus intéressantes qu'on va les avoir en Arizona, mais c'est quand même pas les codes d'écoute qu'on va voir à Toronto, Ottawa, qu'on va voir à Vancouver, là, et, ouais. Puis qu'on pourrait à Québec si jamais il y avait le retour d'une équipe à Québec. Là.
Hey Mario, en 10 secondes, tu disais aux gens qui y croient aux séries cet été de prendre leurs médicaments. J'aimerais savoir quel médicament tu parles.
Ben, écoute, je veux juste qu'on fasse attention. Tu sais, quand c'est marqué sur la bouteille, prenez 4 pilules aux 2 heures. Prenez pas deux pilules aux 4 heures. C'est pas bon. C'est pas assez, là. Tu sais, je veux dire, c'est suivre la posologie. Il faut juste faire attention. Ça se peut qu'il y ait des séries, mais il faut arrêter de faire croire qu'il va y avoir de bonnes cotes d'écoute aux séries. Ça se peut qu'au Québec, il y ait des bonnes cotes d'écoute, mais le Québec, c'est un grain de poussière dans le désert. Là. C'est pas ça qui fait vivre la Ligue nationale. C'est tout le Canada, c'est tout le Nord, puis à ce moment-là, puis c'est certainement pas l'Arizona puis la Floride qui va faire que des matchs en juillet et en août vont être intéressants et vont être payants, surtout pour la Ligue nationale.
Écoute-moi, Mario, j'y crois pas aux séries, mais je vais quand même prendre une grosse bière comme médicament. Hey Mario, je te remercie beaucoup. Salut, à la prochaine.
J'ouvrirai les bars, ça va être déjà intéressant.
Ah, là, ça pourrait aider. Hey, salut à toute la gang. Salut les zoneux. Salut Mario.